Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser consacrée cette semaine aux victimes comme figure politique et qui va revenir ce soir sur l'affaire MeToo avec Anne Dugin. Après avoir vu avec Marc Lilla la montée de la figure victimaire dans la politique des identités aux États-Unis, Identity Politics, puis la montée en puissance des victimes dans les conflits, qui revendiquent notamment d'écrire l'histoire et d'en réclamer réparation, notre conversation ce soir sera consacrée à l'affaire MeToo, au séisme MeToo peut-être, devrais-je dire, une conversation en compagnie d'Anne Dugin, qui est conseillère de la rédaction de la revue Esprit et qui a signé un article dans le journal Le Monde intitulé « De l'injuste à l'inadmissible ». Bonsoir Anne Dugin.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors est-ce que vous pourrez rappeler, rafraîchir la mémoire de nos auditeurs sur l'affaire MeToo.
Sur l'affaire MeToo.
Oui, qui a commencé aux États-Unis, mais qui a des implications dans le monde entier, qui est un véritable séisme avec des répliques dans les différentes cultures, et notamment françaises.
Absolument. Alors, tout démarre le 5 octobre 2017 avec la publication dans le New York Times d'une grande enquête dans laquelle un certain nombre de femmes, actrices, accusent le producteur Harvey Weinstein d'agression sexuelle et de viol. Très vite, le processus s'accélère, de nouvelles révélations s'en suivent, encore dans le New York Times, puis dans le New Yorker, de nouveaux articles, de nouvelles révélations. Naît le fameux hashtag MeToo sur les réseaux sociaux, à travers lequel de nombreuses femmes issues du milieu du cinéma, mais bien au-delà, assez vite, se déclarent elles aussi avoir été victimes de violences sexuelles. Et quelques jours après, suivra son équivalent français, Balance ton porc.
Oui. Nous reviendrons sur la traduction française.
Nous reviendrons sur la traduction française qui était assez particulière.
Mais une diffusion virale qui a un retentissement considérable, toujours d'ailleurs aujourd'hui aux États-Unis.
Oui, le mouvement n'a cessé de faire débat pendant un an. Il y a eu de nombreuses répliques, de nombreuses conséquences aussi pour un certain nombre d'hommes qui ont été inquiétés à la suite de ces révélations, et un mouvement qui continue de faire débat, qui clive encore durement, y compris au sein du mouvement féministe. Quoi.
Alors on va revenir sur le mouvement féministe, mais remarquons d'abord c'est que ce sont des statues qu'on déboulonne, c'est des figures majeures, alors dans le milieu d'Hollywood, dans le milieu du cinéma, mais bien au-delà, il y a des patrons, et à chaque fois ce sont c'est une figure patriarcale, c'est la figure d'un homme particulièrement puissant, qui est déstabilisé, qui est dénoncé par cette campagne MeToo.
Oui, je pense que c'est ce qui a fait toute la portée symbolique du mouvement. C'est-à-dire que précisément, il permettait d'attaquer des hommes puissants et chez qui la violence sexuelle, si on peut dire, n'était que l'ultime traduction de cette puissance non contrebalancée, non remise en question, d'un pouvoir qui s'exerçait un petit peu sans partage, avec droit de vie ou de mort, mais
la capacité de
ouais, bah, qui passait par un droit de cuissage, mais surtout ce qui frappait dans le cas d'Harvey Weinstein, c'est que cet homme faisait et défaisait les carrières de tout Hollywood.
Mais
donc à ce titre-là, il avait une position particulière.
C'est au moment où il est moins puissant qu'il est attaqué.
Oui, et c'est sans doute pas un hasard. C'est au moment où cette puissance décline que finalement la possibilité de la remettre en question se fait jour.
C'est ça. Alors ce qui est intéressant, c'est la défense d'Harvey Weinstein. Il dit en substance, mais moi quand je suis rentré dans les milieux du cinéma des années 70, quand j'ai été formé, j'ai été socialisé, c'était des pratiques courantes. Et maintenant ça a changé.
Oui,
d'accord.
Alors effectivement, cette phrase, il l'a prononcée dans une sorte de communiqué avant qu'il soit mis en accusation par un juge. Il a eu cette formule. J'ai commencé à travailler dans les années 60. À l'époque, ça se passait comme ça. Les relations de travail étaient empreintes de ces rapports-là entre les hommes et les femmes. J'ai compris depuis que ce n'était pas une excuse. Et alors, ce communiqué, ce qui est étrange, c'est que il voulait minimiser c'était une première défense. excessivement maladroite sans doute, mais alors ça a accru l'indignation générale.
Oui, oui. Il s'est reproduit exactement la même chose, d'ailleurs il y a 15 jours, avec un article dans la New York Review of Books, qui est une troisième revue, toujours de New York, et qui a ouvert ses colonnes à une personne qui a été désignée, un chanteur, je crois, canadien.
Oui, je crois qu'il était producteur de radio.
Voilà, c'est producteur de radio, comme quoi personne n'échappe à cette campagne. Et ça, là aussi, de nouveau un séisme, oui. Une réplique du séisme, et le directeur de la revue a dû partir.
Oui, alors cette affaire, effectivement, donc là, on est un an après, c'est-à-dire que MeToo, c'était il y a un an. Cette affaire, au niveau de la New York Review of Books, elle vient de se produire. La New York Review of Books avait décidé, précisément pour les un an du mouvement, de consacrer un numéro, le numéro qui sort là en ce moment, à ce thème de, je crois que le numéro est intitulé The Fall of Man, donc la chute de l'homme un an après. Et oui. Dans ce numéro était inclus un article signé par donc Gian Gomeshi, qui est un producteur canadien de radio, il me semble, assez connu, qui a été pris dans la tourmente MeToo au moment où celle-ci qui a fait l'objet d'accusations.
Mais il s'est défendu en justice, c'est ça la nouveauté.
Alors, il s'est défendu en justice, il a été acquitté.
Exactement.
Et donc là, il a pris la plume dans la New York Review.
Il a été acquitté. Et il a transigé, c'est très intéressant, quoi, je trouve, d'un point de vue juridique et social. Et il a transigé l'affaire la plus importante,
oui,
en indemnisant, quoi, oui, par une transaction financière.
Voilà. Donc il dit aujourd'hui qu'après tout, il avait été blanchi par une cour, et c'est vrai. Reste qu'effectivement, comme vous le soulignez, il avait entre guillemets négocié, enfin un settlement, comme on dit aux États-Unis. Mais il prenait la parole dans la New York Review of Books, enfin les colonnes de la review lui étaient ouvertes, pour évoquer la tourmente dans laquelle il avait été pris et ce phénomène de condamnation, de vindicte à laquelle il dit s'être trouvé livré, alors même, comme il le rappelle, qu'il avait été blanchi.
Alors c'est très intéressant parce que il se pose. Alors l'article est assez ambigu d'ailleurs, à vrai dire, parce que il se pose un peu en victime des victimes. En
absolument.
Sorte.
Cet article, quand on le lit, frappe par son caractère auto-justificateur. Et comme Harvey Weinstein.
En même temps, repentant. Anne Dujard, oui, en même temps repentant.
Oui. Comme Harvey Weinstein, oui, j'ai compris que ce n'était plus possible d'avoir ce mode de rapport-là avec les femmes. Et pour autant, et c'est là qu'on touche à une dimension qui questionne ou qui paraît problématique, donc l'apparition de cet article dans la New York Review a de nouveau fait l'effet d'une bombe et a été considérée par de nombreux lecteurs et lectrices comme, encore une fois, une manière de minimiser la gravité du phénomène des agressions sexuelles. Et donc, le rédacteur en chef de la New York Review, Yann Bourouma, est parti.
Qui venait d'être nommé après la succession du patron historique, voilà, de la New York Review of Books. Donc c'est quand même un phénomène considérable, quoi. Les conséquences sont extrêmement graves. Et alors, ce qui est frappant dans ce cas-là, c'est que il y a eu des décisions de justice qui lui était favorable. C'est-à-dire que Anne Dujain, c'est ce qui est un véritable problème pour moi, et c'est-à-dire ça excède la question de MeToo, c'est la question de la dénonciation virale par les réseaux sociaux. Ce sont des victimes qui ne cherchent pas leur moment de justice ou qui n'acceptent pas le moment de justice quand il est intervenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément triangulateur. Elles sont victimes d'harcèlement et on a l'impression que la forme même du réseau social a des caractères d'harcèlement, oui, de leur dominateur.
Alors, vous avez raison, Antoine Garapon. Dès le début, dès que MeToo apparaît, et encore plus en France, je crois, au moment de Balance ton porc, la méthode pose problème. L'idée que des femmes vont dénoncer sur les réseaux sociaux des comportements inappropriés allant d'un comportement jugé déplacé à une agression sexuelle caractérisée est jugée éminemment problématique.
Alors,
je pense qu'il faut rappeler quand même que finalement, des dénonciations, il n'y en a pas pas eu tant que ça. C'est-à-dire la plupart de ces dénonciations.
Dénonciations dénommées, contre personne dénommée.
Contre personne dénommée. Voilà. Était, il y en a pas eu, il y en a pas eu tant que ça. Que les femmes, le gros des femmes qui ont pris la parole ensuite dans la foulée des révélations un peu spectaculaires, elles ont raconté des expériences anonymement. Mais j'ai envie de dire, finalement, peu importe, la question se pose néanmoins. Ce que je crois, et par rapport à ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement, MeToo fait partie de ces moments qui sont courants dans l'histoire des mouvements sociaux, où il y a un moment où le droit ne remplit pas sa fonction de tiers réparateur symbolique de manière suffisante. Et on le sait, au sens où les victimes d'agressions sexuelles, on le sait, enfin c'est une histoire longue, ces questions-là sont mal prises en charge par le judiciaire. Les condamnations sont rares, on sait ce que ça coûte sur tous les plans à une femme de porter plainte, c'est...
On peut se demander justement si le vecteur n'est pas aussi le moment de justice. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un effet libératoire d'une parole libérée? Alors, ça fait référence à l'association des victimes de prêtres pédophiles, la parole libérée. Mais est-ce que précisément dans ce type de violence très particulière qu'est le harcèlement sexuel, ou plus, parce qu'il y a des affaires qui sont beaucoup plus graves, est-ce que... il y a la première libération, le début de justice en quelque sorte, c'est d'en parler publiquement.
Oui, absolument.
Et je fais référence d'ailleurs autant aux manifestations qui ont eu lieu après ce mouvement, notamment en France, où des femmes publiquement se sont montrées. Alors pour le coup, on dépassait le stade du réseau social, oui, qui est anonyme et qui est un réseau et donc qui circule, mais qui n'a pas de corps. Là, elles ont participé à une,
oui,
manifestation.
Et je crois qu'il faut faire confiance au fait que ces moments-là, ces moments de libération de la parole, peut-être de débordement des institutions que sont le droit, que sont la justice, par cette prise de parole, sont des moments de réajustement finalement entre l'expression d'un désir de justice et de droit et la manière dont les institutions vont y répondre. Je pense au fait notamment que on sait que les plaintes pour agression sexuelle ont augmenté dans la foulée du mouvement MeToo, ce qui veut bien dire, oui, qu'on n'en reste pas à
bien
une
sûr.
À une voyez à
mais
une
Anne Dugin, vous savez comme moi que le nombre de déclarations de viol est infime par rapport au chiffre noir qu'on estime,
oui,
on estime c'est entre 10-12% dans le meilleur des cas des viols qui sont reportés, qui sont dénoncés, qui font l'objet d'une plainte, et puis ensuite 7% simplement sont condamnés, ce qui est quand même incroyablement peu. Et si c'est peu, c'est dû à toute l'histoire qu'a très bien retracé Georges Vigarello sur l'histoire, oui, du viol. Mais c'est aussi le fait que dans un système de justice, ce sont des faits qui sont très difficiles à caractériser.
Difficile à prouver.
Oui. Pas à prouver, ça se passe dans des lieux par définition intimes où il n'y a pas de témoins. Et donc c'est difficile à caractériser judiciairement. En quelque sorte, donc il y a une impossibilité de la justice.
Oui. Mais peut-être que les choses vont évoluer dans le sens d'une plus grande prise en compte d'un certain nombre de signes, d'un certain nombre de preuves que le droit aujourd'hui ne peut pas prendre en charge, mais que ce mouvement-là, et en particulier l'épisode MeToo, même si l'épisode MeToo il s'inscrit dans une histoire longue, hein, dont on voit pas forcément tous les soubresauts, va permettre de constituer.
Anne Dugin, est-ce qu'on n'est pas précisément là, ce qui est la grande nouveauté de ce phénomène, c'est-à-dire la tension entre la loi et les mœurs. Montesquieu disait que on réglait les problèmes sociaux et les difficultés d'une société que par les mœurs. La loi intervient toujours à la marge. Est-ce que là, et ça va dans le sens d'ailleurs de ce qu'a dit Harvey Weinstein, c'est-à-dire que on est dans un changement de mœurs, sans mauvais jeu de mots.
Oui, tout à fait. Et ces moments de réarticulation là, ils sont nombreux. Il y a eu une accélération, je pense, au 19e et au 20e siècle de ça, à travers la montée en puissance de revendications féminines plus larges, d'accès à l'emploi, d'accès à différents champs de la vie sociale. Mais pensons par exemple au procès Halimi en 1978, à l'issue duquel la définition juridique du viol change.
Oui.
C'est-à-dire que ces deux jeunes femmes qui avaient été violées, au départ leurs agresseurs avaient été condamnés pour coups et blessures. Et bon, voilà, il a fallu un travail social de grande ampleur pour faire évoluer...
Et des scandales, disons-le, il a fallu des scandales.
Et le scandale qui l'accompagne.
Mais alors, il y a eu une autre affaire dans l'affaire MeToo. C'est-à-dire qu'il y a eu un autre article dans le New Yorker qui a fait énormément parler, qui a fait en quelque sorte rebondir et approfondir les problèmes soulevés par MeToo, Anne Dugin.
Oui, vous pensez à la nouvelle.
Oui.
Oui. Alors, c'est une nouvelle de fiction.
C'est intéressant d'ailleurs comment une nouvelle de fiction.
Voilà. D'ailleurs, ça a beaucoup interrogé sur le statut de la fiction.
Oui, qui a donné lieu à des commentaires extrêmement nombreux aux États-Unis.
Oui, au point que certains grands journaux américains ont dit que c'était l'acte 2 de MeToo. Donc, ça, c'est une nouvelle qui a été publiée en décembre 2017, donc quelques mois après MeToo. Le New Yorker a cette tradition de publication de nouvelles qui nous est assez étrangère dans la presse française. Et cette nouvelle, en fait, elle parle d'une jeune femme. Qui commence à sortir avec un garçon un peu plus âgé qu'elle, qui rentre dans ce jeu de la drague, du flirt, bon. Et puis je vous passe tous les détails, mais elle se rend compte
les
au moment de
voilà, lecteurs se reporteront.
La nouvelle s'appelle Cat Person. Mm-hmm. Au moment d'avoir un rapport sexuel avec ce garçon, alors qu'elle est consciente qu'elle a entre guillemets joué le jeu jusqu'au bout, elle a flirté, elle a accepté de l'embrasser, elle est montée dans sa voiture. Elle se rend compte qu'elle n'a pas du tout envie d'aller jusqu'au bout. Et là, elle se sent coincée. Elle se dit, bon, j'ai joué le jeu jusqu'au bout, j'ai donné tous les signaux qu'il fallait pour signifier que je voulais aller jusqu'au bout. Si je recule maintenant, ça va mal se passer pour moi.
Comment ça va mal se passer pour moi? C'est-à-dire,
je vais passer pour une fille. Oui, aux yeux du garçon. Oui. Elle a très peur de la réaction du garçon. Bon, et puis alors, elle se débat plus ou moins bien, plutôt pas très bien avec ça. Et alors, cette nouvelle, comme vous le dites, a été partagée des millions de fois aux États-Unis, a suscité un nombre de commentaires complètement fous, et les gens vraiment, alors sur les réseaux sociaux de nouveau, discutant de cette nouvelle, des enjeux, des questions qu'elle pose.
Quels enjeux, Anne Dugin?
En particulier,
quels enjeux?
Et c'est pour ça qu'on a dit que c'était l'acte de MeToo, c'est-à-dire du rapport sexuel consenti, puisqu'elle n'est pas forcée à aucun moment, mais non voulu, non désiré. Et c'est ce que les Américains appelaient le « unwanted sex », dont tout d'un coup on dit que ça, c'est une problématique féminine majeure, qui était déjà présente en réalité au niveau de l'affaire Weinstein, parce que, bon, Harvey Weinstein, il s'est rendu coupable de faits qui sont, à la limite, là c'est assez simple, viol caractérisé, des agressions,
voilà. Qualification pénale.
Voilà, il y a aussi un certain nombre de femmes avec qui il a eu des rapports sexuels non forcés, et dont ces femmes ont dit, mais je ne le voulais pas, mais quel choix avais-je? J'étais dans une situation très compliquée.
Oui, mais ça nous renvoie déjà à l'ambiguïté du consentement. Parce que
voilà.
Le marché du spectacle ou du cinéma étant ce qu'il est, il y a énormément de candidats à des rôles dans des films. Et les gatekeepers, ceux qui détiennent ce pouvoir, sont très peu nombreux et sont tentés d'en abuser. Mais cette tentation, elle est partagée de part et d'autre.
Oui.
Et c'est le problème qui a été soulevé d'ailleurs, notamment en France.
Oui, oui, vous avez raison. Et c'est toute la problématique qui était au cœur de cette notion de consentement. Notion très très importante pour caractériser, y compris pénalement, les situations où ce consentement est enfreint, et donc là où il y a problème. Et en même temps, la notion même de consentement traduit cet inégal rapport de pouvoir dont vous venez de parler. C'est-à-dire qu'on s'intéresse rarement, beaucoup plus rarement, au consentement des hommes.
Le
consentement est plutôt, il est présumé. C'est une notion à laquelle on s'intéresse pour les femmes, mais aussi pour des enfants, ou aussi pour des personnes en grande fragilité économique et sociale. Enfin, autant de personnes dont on n'est pas sûr que leur liberté soit pleine et entière au moment où elles font quelque chose, où elles acquiescent à quelque chose.
Anne Dugin, on a quitté le domaine du droit. On a quitté le domaine de la, même pratiquement de la victimité. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus une situation sociale, alors peut-être une tradition patriarcale, pour reprendre le mot qui est utilisé notamment aux États-Unis par une tradition féministe, en disant oui, mais ça c'est le fruit d'une condition sociale.
Oui.
Une condition sociale dans laquelle la femme est, alors victimisée, ce serait réducteur, mais elle est dans une situation telle que tout le consentement repose sur elle.
Oui, et c'était bien toute ambiguïté de cette question, dont je pense que MeToo l'a mise en lumière. C'est-à-dire que le consentement, la notion de consentement et de son usage, paradoxalement, viennent dire que les partenaires ne sont pas tout à fait égaux dans ce qui se joue. Donc on veut s'assurer que la femme a bien consenti. Il y a des situations où elle a consenti, mais elle dit qu'elle ne voulait pas. Et le droit ne peut plus grand-chose à ce stade, je suis bien d'accord avec vous, et c'est précisément sur ce point-là qu'appuyait MeToo et qui faisait mal, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est ce rapport de force inégal, dans la sexualité en particulier, que le mouvement MeToo a voulu remettre en question.
Matière à penser, Antoine Garapon.
Toujours avec vous, Anne Dugin, pour parler de l'affaire MeToo, et vous êtes venue accompagnée de Ringo Starr,
oui,
comme
voilà.
Votre avocat. Expliquez-nous ça.
You're 16, you're beautiful and you're mine.
Alors, c'est tout un programme.
Tout un programme. Donc c'est une chanson qui date des années 70, mais elle a une version originale qui est bien plus ancienne que ça. Non, je l'ai choisie parce que, d'abord, c'est une chanson d'amour, comme 90% des chansons, preuve s'il en est que c'est quand même une question qui nous préoccupe tous beaucoup. Mais surtout parce que elle me paraît très très fortement marquée par une certaine vision des rapports hommes-femmes, enfin en l'espèce filles-garçons. Je sais pas si vous avez prêté attention aux paroles, mais la fille est définie par son physique.
Vous avez 16 ans, vous êtes belle, vous m'appartenez.
Et vous m'appartenez, voilà. Elle est définie par son physique, elle appartient aux garçons. Des millions de couples se sont aimés comme ça, et continuent de le faire. Et pour autant, c'est sur cette inégale position, finalement, dans le rapport d'amour et le rapport sexuel que le mouvement MeToo a voulu frapper, en tout cas qu'il entend mettre en question.
C'est ça, qu'il met la question sur la table, et je crois qu'on aurait tort de résumer cela à une position victimaire. On est bien au-delà de la position victimaire.
Oui.
C'est dans le fond comment on réinvente un rapport homme-femme,
voilà.
Aujourd'hui, 40 ans, 30 ans après le moment où M. Weinstein est rentré dans la profession, où Ringo Starr écrit cette chanson. Comment est-ce qu'on va s'en sortir pour rétablir, et c'est là où on revient à la question féministe, Anne Dugin, quels sont les scénarios de sortie finalement de l'impasse dans lequel que souligne MeToo ou Balance ton porc?
Alors moi je dirais qu'il y a un premier scénario que je qualifierais d'assez sombre si on regarde comment les choses évoluent aux États-Unis. Pourquoi je dis ça? Parce que on a évoqué tout à l'heure le départ de Yann Buruma de la New York Review of Books suite à la publication de cet article de Gian Gomeschi. Ça, par exemple, c'est une dimension, enfin, c'est une évolution que je trouve pas positive. Au sens où
mais on retrouve la tradition puritaine du name and shame,
voilà, on est complètement
de la dénonciation, quoi.
Voilà, une gestion de la question dans cet univers anglo-américain qui consiste, à mon sens, à remplacer la politique par de la morale, c'est-à-dire vouloir en quelque sorte purifier le débat public
et du collectif par l'individuel, c'est-à-dire
oui.
Que la question des hommes est posée à travers celle de d'Harvey Weinstein ou de
voilà, et qu'il y a un certain nombre de choses qu'on n'a plus le droit de dire. Alors, je crois que cet article, il était très critiquable et c'était une décision éditoriale très critiquable. Mais de là à faire partir le rédacteur en chef d'une rédaction, il y a un pas à ne pas franchir. C'est cette possibilité du débat contradictoire et de publication d'articles.
Le débat lui-même
très
est insupportable.
Voilà, ça est problématique. Alors, je crois que plus largement qu'on comprend pas MeToo, si on comprend pas que ça vient, que le mouvement est né aux États-Unis, Et donc, dans une tradition féministe qui n'est pas la nôtre, au sens où elle est très ce qu'on appelle différentialiste. C'est-à-dire qu'elle va insister sur les caractéristiques qui définissent la condition féminine, là où notre tradition dite universaliste insiste beaucoup plus sur l'égalité à travers la neutralisation des stéréotypes de genre.
Oui.
Or, les traits caractéristiques qui peuvent finir par définir la condition féminine, eh bien, il y a le fait d'être structurellement en position de, alors victime, non, mais en tout cas, objet de forme de domination masculine. Donc il y a une rigidification du débat qui peut prendre des formes qui, nous, vont nous paraître
mais est-ce que ça veut dire, est-ce que dans Balance ton porc, il y a aussi cette dimension, alors c'est la version française, plus gauloise, plus crue, moins puritaine, mais on est quand même dans un phénomène de désignation, et désignation extrêmement violente de ton porc, mais peut-être que tous les hommes sont des porcs.
Oui, alors cette animalisation, et puis le caractère très violent du hashtag a largement été souligné. On a beaucoup parlé en France, on a été très vite à dire que le mouvement était insupportable, qu'il s'inscrivait dans une tradition, enfin dans quelque chose qui était de l'ordre de la délation. Encore une fois, je pense qu'il faut rappeler que les dénonciations, il y en a vraiment pas eu beaucoup. Et que l'argument qu'on a beaucoup servi à ce moment-là, qui consistait à dire qu'elles aillent au tribunal, je le trouve assez fragile, dans la mesure où on sait que c'est pas si simple. Et puis par ailleurs, cet argument, j'ose vous dire, Antoine Garapon, qu'il est réversible. C'est-à-dire, si un homme s'estime victime de discrimination, de diffamation, pardon, sur les réseaux sociaux, qu'il aille au tribunal. Enfin, vous voyez, ça marche dans
bien
les
sûr,
deux sens.
Bien sûr, mais puis c'est une sorte d'impasse de la judiciarisation. Et je crois que, d'ailleurs, il y a un entretien avec Geneviève Fraisse qui explique qu'elle dit « MeToo marque la fin d'un cycle ». Et voilà. La fin d'un cycle qui était le cycle du droit, qui était le cycle qui réclamait plus de droits, qui ont été reconnus pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, reste à les mettre en œuvre, ça c'est une autre affaire.
Voilà, et elle dit aussi, si je ne me trompe pas, que la nouvelle question qui s'ouvre pour le féminisme et pour la question des rapports hommes-femmes, et ça va être redoutable à traiter par le droit, c'est la question du corps. C'est celle-là qui est
la question du corps, c'est-à-dire Anne Dugin.
Eh ben, c'est-à-dire que la conquête de, il y a eu un premier cycle féministe qui a été marqué par la conquête de nouveaux droits, le droit de vote, le droit de participer à la vie économique et sociale,
la redéfinition du viol, etc.
Aujourd'hui, le cycle qui s'ouvre, ça va beaucoup plus être un cycle dans lequel c'est le corps qui est le lieu, le corps et la liberté de disposer de ce corps. Alors, il y a eu tout le mouvement autour de la question de l'IVG qui est déjà ancien, mais en tout cas la liberté de disposer de ce corps, sachant que le corps féminin a une place particulière dans l'espace public. Il a une forme de disponibilité que n'a pas le corps masculin. Et il y a une manière de le toucher, de l'exposer, qui fait partie de la manière dont se définissent les rapports
avec,
hommes-femmes.
Avec des victimes consentantes, parce que...
on revient à toute la problématique
bien
du
sûr.
Consentement.
Oui. Mais ce que je veux dire par là, je reformule ma question, Anne Dugin, est-ce que cette domination masculine va trouver sa solution dans un renversement de la domination par une domination féminine, bien sûr, des choses qu'on entend aux États-Unis. En d'autres termes, est-ce qu'il n'y a pas plutôt le besoin, l'exigence, l'attente d'une redéfinition par les mœurs?
Tout à fait. Et alors,
des rapports hommes-femmes.
La manière dont les choses évoluent aux États-Unis, je trouve, peut être considérée comme préoccupante à plusieurs titres. Moi, je crois, à titre personnel, qu'une énorme partie de la solution, si solution il doit y avoir, elle viendra du côté féminin et elle viendra de la possibilité du désir féminin d'être mieux formulé, plus entendu, plus assumé. Plus accepté socialement, mais à commencer par les filles elles-mêmes. C'est-à-dire que le jour où les femmes seront plus à l'aise avec leurs désirs, avec ce qu'elles veulent, avec ce qu'elles ne veulent pas.
C'est pour ça que je vous faisais remarquer que la question, aux yeux de qui, elle ne voulait pas passer pour une...
La personne dans la nouvelle fiction.
C'est ça.
C'est-à-dire que...
Parce qu'à ses propres yeux, il y a un dilemme proprement féminin de
voilà.
Du
Et je pense qu'il y a vraiment deux niveaux de réponse à cette question. Oui, il y a une question individuelle qui est formulée aux filles, qui est de peut-être être plus... d'assumer plus consciemment, plus clairement ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Mais je crois que l'essentiel du problème vient du cadre social de réception de ce désir. On n'exprime pas un désir quand on sait qu'il ne sera pas reçu, quand on sait qu'il est difficilement reçu. Les traditions de la cour amoureuse, de la drague, pour le dire vite, sont encore très très ancrées. L'idée que c'est une fille qui prend l'initiative, qui d'inviter, d'embrasser, tout ça est encore excessivement codé. Et effectivement, ça devient une sorte de casse-tête chinois. Je pense, comme vous le dites, que c'est par les mœurs, par une réarticulation des mœurs, que les choses vont évoluer.
Il y a une autre solution, c'est qu'on peut encore solliciter le droit, mais plus le droit pénal, mais le droit contractuel. Et on peut tenter, et c'est ce qu'on constate aux États-Unis, une sorte de contractualisation des rapports et de protocolisation. C'est le date, hein, c'est-à-dire le rendez-vous, le rendez-vous amoureux. Alors, le premier peut se passer ça, mais pas ça. Au second, c'est un dîner. Et on voit cet extrême codification des rapports amoureux, contractualisation,
oui.
Et dans lequel le consentement se rapproche d'un consentement juridique quasiment formalisé.
Oui, alors encore une fois, c'est la réponse américaine. Je pense que c'est assez orthogonal notre culture... à la culture politique, cette espèce d'hyper-transactionnalisation des rapports humains, des rapports sociaux en général. Je pense à la place qu'a le contrat tout simplement dans la vie économique, sociale, politique américaine, qui n'est pas exactement la nôtre. Je ne suis pas sûre qu'on en arrivera là en France et je ne suis pas sûre qu'il faille le souhaiter.
Alors vous avez remarqué dans votre article, Anne Dugin, que MeToo concernait un certain milieu social. Et aussi bien aux États-Unis qu'en France. Il y a le combat des femmes, bien entendu, dans lequel il y a des avant-gardes qui portent la parole des femmes. Mais en réalité, quand on analyse d'où vient ce mouvement, ce sont les classes moyennes principalement.
Moyennes supérieures. Oui, effectivement, le mouvement s'est enraciné dans ce milieu du cinéma qui est très particulier. Mais la caisse de résonance qu'il a eue, c'est largement situé au niveau des classes moyennes, disons la partie supérieure des classes moyennes, je dirais, des professions intellectuelles, de cadres moyens et supérieurs. À l'inverse, donc les milieux populaires sont restés relativement absents de cette mobilisation, bon, alors même qu'on sait que c'est là que se passe une grande partie des violences sexuelles.
Mais d'autres types de violences, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la même violence que la toute-puissance du patron, cette domination qui est à la fois une domination économique d'ailleurs, comme le remarque Véronique Naumgrab, c'est à la fois une domination d'appropriation sexuelle, c'est la réalisation de la domination économique dans le contexte colonial, les usines, les bureaux, etc.
Oui, les usines sont quand même sont encore des lieux de prédation sexuelle importants et sur lesquels on ne sait pas grand-chose en réalité. MeToo est finalement très peu présent dans des milieux socio-économiques très élevés aussi. Ça, c'est un autre...
C'est-à-dire
Je pense par exemple à des milieux professionnels... très masculin dans le monde de la finance, dans le monde des professions.
On a curieusement peu parlé de la finance d'ailleurs dans l'affaire MeToo. Elle a été peu affectée le milieu de.
Oui, alors même que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doutes sur le fait que c'est des milieux où les positions de pouvoir sont très majoritairement masculines. Donc il n'y a aucune raison que ce milieu échappe au phénomène que dénonçait MeToo. Et pour autant, c'est pas dans ce monde-là qu'on a vu apparaître une libération de la parole, comme on dit. Mais ça, je pense que plus largement, le mouvement féministe a été le fait des classes moyennes. Je pense que c'était le cas dans les années 60. Voilà, c'est de ce point de vue-là, il n'y a pas d'originalité de MeToo. Ce sont ces couches-là de la population qui sont traditionnellement moteurs des évolutions de société. Et le mouvement MeToo ne fait pas exception de ce point de vue-là.
Alors quand on regarde le temps long, on pense bien sûr à l'histoire du viol de Georges Vigarello, on voit ce chemin considérable qui a été accompli parce que on partait d'une situation à la fin du 18e siècle où en quelque sorte la victime était enveloppée par la même infamie que celle de l'acte dont elle était victime.
Voilà, le crime de viol avait, c'est Georges Vigarello qui montre ça, avait ceci de très particulier qu'il, qu'il souille définitivement sa victime. Et donc il est, voilà.
Mais ça c'est toujours présent. On l'a entendu aussi dans l'affaire MeToo. C'est-à-dire, je ne pouvais pas parler. J'étais victime d'une sorte de forclusion, peut-être intérieure, mais de ne pas pouvoir aborder. J'avais envie de parler et je ne pouvais pas être entendu. Quelque chose qu'on a entendu d'ailleurs, qui est très récurrent s'agissant des victimes. Pas uniquement des victimes.
Oui, la question de la honte, attachée à ce qui vous est arrivé, est quelque chose qui définit encore largement les victimes de violences sexuelles. Et par exemple, je reviens sur le procès Halimi, ça a été une dimension majeure de faire sortir les victimes en question de la honte qui y avait à avoir été victime de cette agression-là. Oui, non, tout à fait. C'est quelque chose qui est très,
alors,
qui est
encore on,
très
on a présent. Beaucoup parlé des États-Unis parce que les États-Unis ont lancé, et on voit bien les traits culturels qui sont spécifiquement américains dans cette affaire, et la France, Anne Dugin. Aux États-Unis, il y a le sentiment que l'affaire MeToo, avec ses multiples rebondissements par les autres revues, New York Review of Books, The New Yorker, etc., continue de faire des remous et d'ailleurs assez considérables, mais sans qu'on voit encore dans quelle direction le mouvement va se diriger. Peut-être que, au bout d'en quelques mois, il risque de retomber.
Oui, alors ça par définition,
oui, bien sûr,
on ne sait pas.
Alors, je voudrais qu'on s'intéresse à la situation française, parce que il y a eu un mouvement identique avec Balance ton porc.
Oui.
Est-ce qu'il a rebondi?
Pas tant que ça, au sens où il n'y a pas eu cet effet par épisode et par rebondissement au cœur de notre débat public. Et finalement, aujourd'hui, si un homme était mis en question aujourd'hui pour agression sexuelle et que l'affaire prenne une importance médiatique, on dirait pas que c'est le cas. On dirait pas que c'est encore une victime de MeToo.
Vous croyez pas que l'affaire DSK a joué un rôle majeur? Comme une sorte de tournant, de prise de conscience, sans que ça épouse la forme des réseaux sociaux, mais c'était quand même
l'affaire Beaupin. Il y a eu une série, effectivement, avant MeToo d'ailleurs.
Mais avant MeToo,
avant
exactement.
Avant Balance ton porc, qui nous a beaucoup interpellés là-dessus. Je pense que ce qui a été très fort au niveau de l'affaire DSK, c'est que ça s'est passé aux États-Unis. Et que c'est pas tout à fait anodin de ce point de vue-là, et que donc on a vu cet homme très puissant qu'aurait pu être notre prochain président en tenue orange, menotté, et donc traité avec toute la violence, enfin symbolique, qui est faite aux auteurs d'agressions sexuelles aux États-Unis, et tout d'un coup son libertinage, ce que finalement beaucoup savaient en France, on en a découvert un visage qui n'était pas admissible, voilà.
Donc, de prédateurs, de violents.
Voilà, de prédateurs violents, de criminels, c'était ça qui finalement était dit dans cette mise en accusation, et qui nous a obligés, je pense, à nous regarder français comme ayant été longtemps à l'aise avec ce qu'on a appelé le libertinage, une forme de grivoiserie, des rapports hommes-femmes marqués par la galanterie.
La revendication d'une spécificité française.
La revendication d'une spécificité française avec laquelle... voilà, on s'est mis à se demander si on était si à l'aise que ça. Et dans le regard américain, ça nous renvoyait une image qui n'était pas si facile à assumer, qui nous a questionné, je pense.
Comment est-ce que vous voyez, Anne Dugin, comment vous voyez l'avenir? Là, on est dans une fin de cycle avec un séisme qui ne faiblit pas, qui prend des formes différentes, mais qui converge quand même pour appeler un rééquilibrage, une redéfinition, une reformulation des rapports hommes-femmes. Comment vous le voyez dans nos sociétés, vous qui regardez ces questions de près?
Alors, bon, je pense que MeToo est un épisode parmi d'autres d'un travail social souterrain de très longue haleine. On a l'impression de découvrir quelque chose, qu'il se passe quelque chose d'énorme qui nous a déplacés. Voilà, mais c'est bien davantage le symptôme qui nous fait mesurer un chemin qui est déjà parcouru.
Comment vous le caractérisez, ce chemin?
Ben, je pense que ce chemin-là, c'est effectivement, je rejoins tout à fait Geneviève Fraisse dans son idée d'un nouveau cycle d'après le droit, un moment que je vais qualifier beaucoup plus de l'ordre de réarticulation des consentements, de réarticulation des désirs, au sens où dans les rapports hommes-femmes, et en particulier dans leur dimension sexuelle, puisque c'était de ceci dont il était question majoritairement à travers le mouvement MeToo, ben voilà, c'est deux consentements, deux désirs qui vont devoir se rencontrer, et c'est cette... C'est cette réarticulation en termes de mœurs qui travaille et qui, je crois, se fait et qui, je crois, est en marche.
Qu'est-ce qui vous laisse penser cela, Anuja?
Oh bah là, c'est vraiment, c'est pas haut de doigt mouillé, mais il y a rien qui permette de le. Voilà, je crois par exemple qu'il y a une aspiration chez un certain nombre d'hommes ou de garçons de sortir de certaines formes de la masculinité telles qu'ils en ont hérité de leur père, de leur grand-père, en particulier de la valeur virile. Qui codifie finalement une manière d'être amant, une manière d'être mari, une manière d'être père, dans laquelle beaucoup de jeunes gens ne se retrouvent plus.
Qui codifie, mais on voit immédiatement la réplique, la réaction qui vous sera faite, l'objection qui vous sera faite, Anuja, qui codifie, mais précisément, est-ce que dans ce domaine du désir, qui est peut-être un des plus profonds de l'âme humaine, est-ce qu'il est possible de se sortir définitivement de l'ambivalence, de l'ambiguïté, de l'hésitation? De ce qui fait finalement, on pourrait dire de manière un peu facile, le mystère de nos relations.
Oui, mais alors je crois que s'il y a bien un domaine de nos vies qui est très codifié, c'est celui-là. C'est-à-dire que l'expression du désir est peut-être une des choses les plus codifié dans l'histoire de l'humanité. Vous avez, voilà, qu'on parle d'amour courtois, qu'on parle de galanterie, qu'on parle de date aux États-Unis, ou encore dans d'autres cultures, d'autres manières d'agencer les rapports entre hommes et femmes. Je pense qu'en fait, nos comportements amoureux ne doivent pas grand chose au hasard, malgré ce contrairement à ce qu'on imagine. Ça a beau être quelque chose de très intime, c'est quelque chose de très codé. Et peut-être qu'on est à un moment difficile, douloureux, de réagencement de ces codes, comme il y en a eu d'autres à d'autres histoires, d'autres moments de l'humanité.
Parce que c'est l'acte le plus intime, mais est toujours investi d'une dimension politique.
Oui.
Il est toujours investi d'une dimension qui touche à la liberté, à la résistance, à l'aspiration de la.
Absolument. C'est ce que dit John Jeffress, c'est-à-dire que on s'imagine le consentement comme l'acte qui, par définition, appartient à l'intime de chacun. Or non, dans le consentement, il y a de la politique. Consentir, c'est consentir à un ordre social qui est juste. C'est exprimer une liberté.
Ou appeler de ses voeux à un nouvel ordre social plus juste.
Ou appeler de ses voeux à un nouvel... Exactement. Et donc je crois que c'est beaucoup tout ça qui est en question à travers ce mouvement, qui, encore une fois, nous travaille sur le long terme.
Mais alors, donc on est sorti de la perspective de la victime. La victime, ou la position victimaire, Anne Dugin, n'est qu'une manière de poser socialement la question de cette asymétrie et du rapport de force.
Alors, l'avenir le dira, et encore une fois, on a beaucoup évoqué la situation américaine. Je pense qu'il y a une manière, effectivement, de faire de la position de victime une ressource qui est assez étrangère à notre politique.
Qu'on a bien vu avec Marc Lilla sur la politique des identités.
Voilà. Et qui se pose dans d'autres questions que le seul champ du féminisme.
C'est ça qui serait finalement cette dimension sociale, cette dimension politique de ce qui se joue dans le rapport le plus intime qui est le rapport entre un homme et une femme, se joue la figuration de rapports plus égalitaires ou sinon plus égalitaires dans lesquels le désir de chacun a une vocation égale à être dit.
Exactement. Je crois qu'il faut faire confiance au fait que le mouvement MeToo, en tant que, entre guillemets, symptôme, nous parle d'un désir d'égalité entre hommes et femmes, dont la dimension sexuelle est une dimension importante, ultime.
Mais qui n'épuise pas.
Mais qui n'épuise pas, voilà. Et qui nous parle d'un désir d'égalité.
Merci beaucoup, Anne Dugin.
Merci à vous, Antoine Garapon.
Matière à penser, Anne Dugin, Olivier Dupré, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon.